à 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Et un carnet de voyage avec Michel Laragneau, ancien professeur de microbiologie à l'université de Neuchâtel. Il a travaillé et voyagé en Inde.
Incredible India, c'est le titre de la conférence qu'il va donner sur ses voyages le 14 octobre à Neuchâtel, dans le cadre de l'université du 3e âge.
Alors Michel Laragneau, votre conférence se présente comme un kaléidoscope sur l'Inde. Vous abordez toutes sortes d'aspects. Nous évoquions tout à l'heure les religions, on va parler un peu des coutumes. L'une des premières choses qui marque quand on est étranger dans un pays, c'est la différence des coutumes de politesse et des relations sociales. Qu'est-ce qui change entre ici et là-bas ?
À la fois peu et beaucoup, les coutumes... par exemple, il y a un immense respect pour la femme et en même temps, la femme a une position très... très séparée de celle de l'homme. Par exemple, quand vous êtes invité chez des Indiens, on m'a dit que c'était rare, mais en fait, j'ai été très souvent invité chez des Indiens, donc voir pourquoi, je ne sais pas. Mais là, en général, quand vous êtes invité pour le repas, les hommes sont à table, les femmes viennent les servir, et les femmes mangent après, séparément. Ce qui peut choquer. Par ailleurs, la femme, elle est magnifiée, elles ont des habits superbes, elles sont très élégantes, elles sont très belles, elles ont leur visage généralement découvert, souvent voilé avec un sari, mais en fait, disons, ce qui frappe, c'est cette position de la femme qui est à la fois respectée et mise un peu à part. Ça, c'est une première chose qui peut frapper. Évidemment, j'ai vécu beaucoup en relation avec des universitaires, donc c'est peut-être un peu plus proche de notre mode de vie à nous. Ce qui frappe aussi, c'est pas dans les coutumes, mais c'est l'extrême densité de population, le bruit continu. Quand vous êtes à Delhi, c'est un klaxon continu du matin au soir. Les voitures là-bas, elles n'ont pas besoin d'avoir un gros moteur, elles doivent avoir un gros klaxon. Donc c'est vraiment quelque chose qui frappe quand vous arrivez en Inde, c'est ce bruit. Malheureusement aussi la pollution, ça c'est pas une coutume, mais malheureusement la pollution est très très forte là-bas, et c'est dû tout simplement à la surpopulation. Donc c'est ce qui frappe, disons, si vous me posez à brûle pour point cette question. Mais disons sinon, un esprit d'ouverture, un sourire. Les Indiens adorent qu'on les photographie dans la plupart des cas, donc il n'y a pas du tout ce rejet de la photo, il n'y a pas du tout. Donc c'est un peuple qui est très ouvert. Si vous faites le premier pas, ils feront le second et ils vous le rendront au centuple.
Et puis le système de caste qui a régi l'Inde pendant des siècles, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui, quelque chose qui se ressent quand on voyage en Inde ?
Alors, il se ressent, il ne se ressent pas. Bon, évidemment, je vous ai dit encore une fois que j'étais un peu plongé dans les milieux universitaires qui sont souvent violemment opposés au système des castes. Et je dois dire que mon meilleur ami et collègue, le docteur Adoleya, par exemple, refuse le système des castes et il a refusé de transmettre son nom de famille à ses enfants pour pas qu'ils appartiennent à une caste. Donc il y a un refus et un rejet des castes qui est évident dans une élite. Alors le tout, c'est de savoir si cette élite va prendre le dessus. Actuellement, on sait qu'il y a un gouvernement plutôt quelque peu nationaliste et réactionnaire qui risque de renforcer un peu le système des castes, mais quand même, il est fortement critiqué. Et n'oublions pas que le premier à chercher à éliminer le système des castes, ça a été le Mahatma Gandhi, qui a créé l'Inde nouvelle. Donc voilà.
Alors dans ces milieux universitaires que vous avez fréquentés, vous avez aussi remarqué tous ces mouvements des diplômés qui vont enseigner aux enfants des bidonvilles. C'est quelque chose de très fort, le volontariat des jeunes en Inde.
Alors ça m'a énormément ému de voir que des jeunes diplômés, pas tous, mais enfin, certains jeunes diplômés, comme dans cette école de Ticia, où ma femme a aussi quelque peu enseigné, que des jeunes diplômés en économie, en sciences politiques, etc., disent ben « Maintenant, on va consacrer quelques années de notre vie, non pas à développer une carrière, mais à enseigner à des enfants des bidonvilles. » Et ils ont créé des petites écoles dans les quartiers proches des bidonvilles, où les enfants sont instruits de manière à arriver à un niveau... au niveau de la lecture, de l'écriture et du calcul, qui leur permettent d'entrer dans la scolarité normale. Et ça, c'est très émouvant. J'en ai eu deux exemples. Un autre, dans une université privée, dans le Madhya Pradesh, à Gwalior, où là, c'était les étudiants de l'école d'architecture qui ont mis sur pied spontanément une petite école pour les enfants des bidonvilles. Et ils ont un petit soutien de l'État, donc ils sont reconnus, c'est encouragé, ce volontariat. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et ça montre, disons, qu'il y a vraiment une prise en charge des Indiens par eux-mêmes. Autrefois, on avait l'impression que l'Inde tendait la main, et maintenant, on a l'impression que vraiment, ils prennent les choses en sérieux, en main, par eux-mêmes.